Europe Soir Weekend, Lionel Gougelot.
18h38, l'heure de retrouver nos débatteurs du dimanche soir. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Lionel.
Et William T. du Cercle de Réflexion Le Millénaire. Alors, bon. Premier, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Oui.
J'ai peur de m'être trompé. D'abord, notre premier sujet de discussion, on en parlait il y a quelques instants avec Prisca Thévenot, la députée du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, cette fameuse dissolution qui serait maintenant très clairement envisagée par l'Élysée, hein, disons-le, avec un programme très précis. Dès lors qu'elle sera cette dissolution, décidée par le président de la République, Frédéric Dabi, est-ce que vous pensez que c'est une vraie préoccupation des Français ?
Ah, préoccupation en tant que telle, absolument pas. Les Français s'intéressent à leur vie quotidienne, mais ce serait... Déjà, on est, cher Lionel, sous le sceau de l'inédit. C'est tout à fait inédit qu'on parle si tôt après un scrutin législatif d'une part, et dans le cadre du quinquennat, depuis 2002 nous sommes en quinquennat, d'une dissolution. La dernière dissolution, c'était sous un septennat, c'est en 1997, la fameuse dissolution de Jacques Chirac. Et c'est vrai qu'en parler, le fait que l'IFOP fiduciale fasse un sondage 6 mois après le vote des Français, d'ailleurs quand on a redressé nos données pour faire un peu de technique, on a utilisé les candidats tels qu'ils s'étaient présentés le 12 juin 2022, c'est inédit, mais c'est inédit parce qu'on a une situation, un système politique qui est ce qu'il est en ce moment, c'est-à-dire une majorité relative, un multiple recours au 49-3, donc ça maximise les risques ou l'opportunité selon le camp dans lequel on se place, qui est une motion de censure contre le gouvernement. Et le président l'a dit, et il a raison, motion de censure, la dissolution devient absolument inévitable.
En cas de dissolution, en cas de retour aux urnes, selon vos enquêtes, qu'est-ce que ça donnerait ? Alors, est-ce qu'il y aurait un bouleversement fondamental de l'équilibre politique ?
Pour l'instant, non, et c'est plutôt intéressant de voir que le vote des Français reste cohérent et ne se déjuge pas à peine 6 mois après. Ouais. On a quand même dans cette enquête IFOP fiduciale pour le JDD des petits mouvements. Le bloc de droite extrême, c'est-à-dire RN Reconquête, gagnerait 3 points par rapport au... oui, ce n'est pas rien par rapport au 12 juin dernier, c'est-à-dire 21%. Jamais le FNRN n'a dépassé 20% à un scrutin législatif à l'échelle nationale. La majorité tient le choc, ce qui est intéressant dans une logique de telle inquiétude sociale et tel mécontentement et telle inquiétude de projection difficile pour l'avenir. Non, pour l'instant, le perdant, ce serait la NUPES. 25%, c'est un peu moins... qu'au mois de juin dernier. C'est historiquement un score très bas pour la gauche. Et lorsque l'on fait l'hypothèse, qui n'est pas impossible, c'était 78, la gauche qui n'était pas unie, après l'abandon du programme commun, la rupture du programme commun, des forces divisées, et ben le total gauche fait 29 points. 29 points d'un côté, 25 de l'autre. Ça montre cette déperdition et cette part d'électeurs de gauche qui ne veulent pas d'une NUPES sous domination, si je puis dire, LFI, Jean-Luc Mélenchon.
C'est peut-être qu'elle n'a pas véritablement séduit ou convaincu cette
NUPES. Tout à fait, on l'a vu à l'Assemblée nationale.
Et la façon de fonctionner.
Et stabilité pour les Républicains.
Éventuellement, on va en reparler justement. William T., ce serait quoi le calcul politique finalement pour la majorité, pour l'exécutif ?
Je pense qu'il est double. Il est double. Le premier, c'est de faire peur aux députés LR pour leur dire si par cas vous ne votez pas mes textes, eh ben, je dissous. Et puis comme vous avez peur de vous tourner devant les urnes, eh ben, vous allez pointer aux assédis qui appellent encore rapidement. Ça, ouais. Voilà, c'est un peu ça l'idée.
Très honnêtement,
de façon très sommaire.
C'est la première réflexion que je me suis faite ce matin en lisant l'article du JDD.
C'est l'objectif. C'est pas anodin que ce soit sorti 2 semaines après l'interview de Nicolas Sarkozy. Mm-hmm. 1 semaine après son interview, il appelle clairement LR à faire coalition. Le deuxième point qui est possible, c'est qu'Emmanuel Macron décide de reprendre la main et qu'il décide en fait d'appliquer une ligne politique qui est plus claire et en fait d'imposer la coalition parlementaire de fait devant le peuple. Mmh. C'est-à-dire qu'il peut se dire, j'ai proposé une coalition avec LR, je reprends le programme des Républicains et j'appelle les électeurs de droite à déjuger les électeurs LR pour se porter sur mes députés et mes candidats pour appliquer ce type de programme. Et en fait, il leur laisse la possibilité, soit vous acceptez une coalition et donc soit vous entrez au gouvernement, soit vous laissez passer mes textes, soit on y retourne et de toute façon, j'appliquerai votre programme. Et comme je suis en place, réflexe légitimiste, partie de l'ordre contre le risque des extrêmes, d'une part du Rassemblement National et de l'autre côté de la LFI. Et donc du coup, il espère que les électeurs LR se déportent sur lui et le déjugent comme ils ont lâché Valérie Pécresse lors de la dernière élection présidentielle au premier tour.
Calcul judicieux, alors, Frédéric Dabi.
Ce que dit William est absolument passionnant. Oui, le réflexe du parti de l'ordre face à 2 forces extrêmes, tribuniciennes, le RN d'un côté, LFI de l'autre, le spectacle du désordre à l'Assemblée, c'est une logique possible. L'autre logique, et on l'a vu en 1997, c'est une logique boomerang. C'est que celui qui provoque la dissolution se la prennent en pleine figure, si je puis dire, pardon d'être un peu trivial, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de vote sanction.
C'est arrivé, contexte, comme dirait l'autre.
C'est arrivé, comme vous dites, et en 1997, le calcul de la majorité de l'époque de Jacques Chirac, de Dominique de Villepin, c'était une logique de légitimation et de parti de l'ordre. Ce n'est pas ce qui s'est passé du tout. Et c'est vrai que dans un contexte économique et social électrique, dans cette inquiétude si forte sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat, on va y venir peut-être sur les services publics, l'idée que le sortant soit en position de repasser automatiquement est une idée possible, mais une idée qui peut être compliquée. Alors, bien sûr, ça dépendra à quel moment aura lieu cette dissolution. Il faut quand même dire quelque chose. Il y a beaucoup d'agitation microcosmique, comme disait à l'époque Raymond Barre. On est loin d'une dissolution. Il y a déjà beaucoup de recours, une trentaine de recours de députés battus, de candidats élus qui n'ont pas encore été étudiés par le Conseil constitutionnel. Ouais. Il y a le remboursement des frais de campagne qui n'est pas fini. On est encore sur les queues de comète de l'élection précédente.
William T.
Moi, je pense que si Emmanuel Macron part tout de suite en dissolution, il est fort probable que tous les partis perdent, sauf peut-être le Rassemblement national à l'heure actuelle, et que ce sera des micro-mouvements. Ils passeront de 89 à 115 de députés, mais c'est à peu près l'équivalent. Je pense que par contre, si par caïche, il apprend l'expérience de 97, je vais prendre un exemple précis. Jacques Chirac a demandé la même majorité, enfin une majorité, en ne changeant pas de Premier ministre et en ne changeant pas de politique. Emmanuel Macron, si par cas il propose une dissolution, il faut qu'il l'explique clairement pour demander pourquoi est-ce qu'il a besoin du nouveau vote des Français. Ouais. Et dans ce cas-là, s'il le fait, je pense qu'en fait, il vire Elisabeth Borne, il nomme quelqu'un comme François Baroin, et à ce moment-là, il dit aux députés LR, aux électeurs LR, eh ben on y retourne, mais cette fois-ci, j'appliquerai un programme qui est clair.
Alors, Frédéric Dabi disait à l'instant que c'est pas pour demain. Mais, attention, parce que les projets de loi immigration, les projets de loi sur la retraite, ça va être début 2023. S'il y a blocage sur l'un de ces deux textes sans possibilité de recours au 49.3, on sera peut-être plus vite que prévu.
Il a précisé, il a dit qu'il y aura dissolution uniquement si le gouvernement tombe sous le cas de motion de censure. Et est-ce que un refus du projet de loi immigration ou est-ce qu'un refus du projet de loi de réforme des retraites entraînerait forcément une motion de censure? C'est le premier point.
Prisca Thévenot disait à l'instant, si on nous empêche de faire notre politique, la dissolution...
Obliger les députés LR à voter. Mais ça ne vaut quasiment rien. Non, le deuxième point,
c'est
pas sûr que les députés LR ne laissent pas passer le texte. Ça ne veut pas dire qu'ils votent contre, mais c'est possible qu'ils fassent abstention pour laisser passer ce texte-là.
William a dit ce que je voulais dire sur la question. C'est très bien. Sur la question de la retraite, c'est vrai qu'il y a une telle convergence entre les électorats LR et l'électorat de la majorité sur le fait d'un bouger sur la réforme des retraites, il y aura peut-être une abstention, il y aura peut-être une critique sur quelques aspects du texte, mais ça paraît peu probable que ce soit sur la réforme des retraites. Il y a quand même cette sainte alliance dont j'avais parlé, LR, LREM, qu'on a vu pendant tous les textes économiques du quinquennat, mais sait-on jamais. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose de très simple. La dissolution, c'est le pouvoir unique, non pas des journalistes, des sondeurs,
du président.
C'est du président de la République.
Accessoirement, ça permettra aussi de ressouder certaines composantes de la majorité, parce qu'il y a quelques petits...
De toute façon, Bayrou et Philippe avaient l'idée en tête de se présenter en 2027, ou en tout cas d'avoir des ambitions politiques à l'avenir. En étant en majorité relative, de façon restreinte, ils sont devenus à la fois concurrents, mais surtout solidaires. Et si par cas, il y a l'un des deux qui joue trop sa carte et qui affaiblit l'électorat du président de la République, vous l'avez testé, Emmanuel Macron est toujours à 29% si par cas, il pouvait être candidat. Donc il a toujours un socle fort qui est attaché à sa propre personne. Et si par cas, quelqu'un se dissout tout de suite d'Emmanuel Macron, et ben il sera sanctionné électoralement. La difficulté pour eux, c'est qu'à la fois, il faut être solidaire du président de la République, le soutenir, mais en même temps se différencier pour ne pas être comptable de 10 ans de mandat.
Et penser un peu à l'avenir. À la suite.